Donc, lorsque Allah dit au prophète, lors de son annonce avec, lors de son annonce du mariage avec Zineb, tu craignais les gens et c'est Allah qui est plus digne de ta crainte. Pourquoi Allah a dit ça? Je vais vous citer le verset en entier et vous expliquer rapidement, parce que ce n'est pas exactement le sujet, mais c'est très intéressant. Je vais vous expliquer en quoi le mariage de Zineb est très particulier. Donc, l'ayat, c'est sourate 33, verset 37. Quand tu disais à celui qu'Allah avait comblé de bienfaits, tout comme toi-même l'avais comblé, garde pour toi ton épouse et crains Allah. Et tu cachais en ton âme ce qu'Allah allait rendre public. Tu craignais les gens, et c'est Allah qui est plus digne de ta crainte. Puis, quand Zayd eut cessé toute relation avec elle, nous te la fîmes épouser, afin qu'il n'y ait aucun empêchement pour les croyants d'épouser les femmes de leur fils adoptif quand ceux-ci cessent toute relation avec elle. Le commandement d'Allah doit être exécuté. Cet ayat a fait beaucoup polémique de la part des ennemis de l'islam. Or, c'est quelque chose, subhanallah, qui est magnifique. En fait, Zayd, c'était le captif, on va dire, le serviteur de Khadija, radiallah anha, la première épouse du prophète. Et donc, elle le considérait comme un fils, on va dire, même si on sait que l'adoption n'existe pas au sens filial en islam, mais on pourrait dire comme elle l'a accueilli. C'est comme plus une famille d'accueil, on va dire. Et le prophète a gardé Zayd ainsi comme son fils adoptif, puisque ça s'est dit ainsi dans le Aya. Et en fait, sa relation avec Zaineb n'était pas épanouissante, ça n'allait pas entre les deux. Et le prophète a incité Zaïd à rester avec son épouse, alors qu'au fond de son cœur, il devait avoir quelque chose pour elle. Puisque Allah dit, garde pour toi, donc tu disais à Zaïd, c'est ça qui, quand tu disais à celui qu'Allah avait comblé de bienfaits, tout comme toi-même l'avais comblé, ça c'est Zaïd, et toi, garde pour toi ton épouse et crains Allah. Donc le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit ça à Zaïd. Or, Dieu lui dit, tu cachais en ton âme ce qu'Allah allait rendre public. C'est-à-dire le fait que, voilà, il devait avoir une attirance pour elle. Et tu craignais les gens, et c'est Allah qui est plus digne de ta crainte. Plus tard, quand Zayd et Zaineb ont divorcé, c'est-à-dire, puis quand Zayd eut cessé toute relation avec elle, nous te la fîmes épouser, afin qu'il n'y ait aucun empêchement pour les croyants d'épouser les femmes de leur fils adoptif quand ceux-ci cessent toute relation avec elles. Ça a donné une fatwa, on va dire. Il légifère, Allah légifère et autorise les croyants à épouser les femmes de leur fils adoptif. C'est encore une façon aussi de bien différencier l'adoption en islam de l'adoption filiale. On n'est pas les parents de nos enfants adoptifs, les parents biologiques. C'est interdit de marier, bien sûr, une femme d'un de ses fils, mais pas d'un de ses fils adoptifs, quand bien sûr, ils ont cessé toute relation avec elle. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est le passage que j'ai cité précédemment. Tu craignais les gens et c'est Allah qui est plus digne de ta crainte. Et subhanallah, dans la sourate, toujours, bon, on est toujours dans la sourate 33. Verset, ce coup-ci, je reviens au verset sur le voile, sur le hijab. Donc le hijab comme rideau. Il est dit, et si vous leur demandez à ces femmes quelque objet, demandez-leur derrière un rideau, c'est plus pur. Voilà, dans ce hayat-là, Allah dit, cela faisait de la peine au prophète, mais il se gênait de vous, alors qu'Allah ne se gêne pas de la vérité. Et subhanallah, ça parle, je vous disais, du mariage de Zaineb. Et donc, ça fait deux fois que par rapport à Zaineb, il a peur des gens. Et Allah dit que non, qu'il ne doit pas avoir peur des gens. Allah, il ne se gêne pas de la vérité. Donc, c'est ça. Donc, voilà, on voit un peu tout le caractère éducatif, en tout cas, de cette ayah, puisque c'est sûr qu'on comprend très bien que le fait que les trois hommes soient restés pour discuter jusqu'à très tard, alors qu'il ne restait plus que le prophète et la mariée dans la maison, là, c'était le jour du mariage, c'était, on va dire, un peu incongru. Alors, d'autres versions s'accordent sur le fait que ce verset fut énoncé de façon plus large pour éduquer les croyants de l'époque au respect de la vie privée du prophète en particulier et des gens en général, afin qu'ils sachent prendre congé au moment opportun de chez leur hôte. Et enfin, sachez que d'autres rapportent que Omar ben al-Khattab aurait été dérangé le jour du mariage entre Zaynab et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc Omar, radiallah anhu, aurait été dérangé par le fait que lors du mariage, les épouses du prophète et ses invités mangeaient à la même table et étaient un peu trop... trop familiers les uns avec les autres. Donc, Omar aurait réitéré au prophète la nécessité de dresser un hijab entre les hommes et les épouses pour préserver le respect entre les hommes et ses épouses, on va dire, pour préserver le respect qui leur est dû. Donc voilà, ça c'est en ce qui concerne cette ayah-là. Donc je vous donne le hadith de Bukhari qui est rapporté par Hanas qui dit « Narré par Omar, ô messager d'Allah, de bonnes et de mauvaises personnes viennent te visiter. Je suggère donc que tu demandes à tes épouses de se couvrir d'un voile. » Et le verset aurait été révélé par la suite. Et puis, donc, c'est vrai que dans ce verset, c'est spécifié pour les femmes du prophète, mais ça a été élargi aussi à toutes les femmes musulmanes lorsqu'on le lit avec les autres versets. Alors maintenant, donc, je vais vous parler du dernier des versets concernant le voile. Et là, je l'ai nommé dans l'article « Le verset du voile comme gage de pudeur ». Alors, il s'agit de la sourate 24, sourate An-Nur, verset 31. Alors, je le cite. « Et dit aux croyantes de baisser leur regard, de garder leur chasteté et de ne montrer de leur atour que ce qui en paraît, et qu'elles rabattent leur voile, birumurihin, sur leur poitrine, et qu'elles ne montrent leur atour qu'à leur mari. » ou à leur père, ou au père de leur mari, ou à leur fils, ou au fils de leur mari, ou à leur frère, ou au fils de leur frère, ou au fils de leur sœur, ou aux femmes musulmanes, ou aux esclaves qu'elles possèdent, ou aux domestiques mâles impuissants, ou aux garçons impubères qui ignorent tout des parties cachées des femmes, et qu'elles ne frappent pas avec leurs pieds de façon à ce qu'on sache ce qu'elles cachent de leur parure. Et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès. » Alors, lorsque ce verset a été révélé, Aïcha a dit que Dieu sera miséricordieux pour les femmes des premières immigrations, c'est-à-dire les muhajirat, parce que lors de la révélation de ces mots, qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine. Donc, parce que lors de la révélation de ces mots, et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine, les femmes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, fendirent leur mire, c'est-à-dire leur grand châle, leur pagne, on va dire, pour s'envoiler. Safiya bint Shayba rapporte que Aïcha disait que lors de la révélation de ce verset, les femmes prirent leur izar et les fendirent sur le côté de la bordure pour s'en faire des voiles. Donc voilà, c'est une C'est un récit authentique qui caractérise vraiment l'empressement des premières musulmanes pour l'agrément d'Allah. Quand Allah commande, elles s'empressent d'appliquer. C'est vrai que elles avaient la chance de vivre les révélations en direct. Et leur taqwa en était que démultiplié, mais on a aussi de la chance d'avoir, excusez-moi, on a aussi la chance toutes ces explications, tout ce que les savants nous ont appris et notre croyance en ces textes doit être tellement forte que nous aussi, on doit s'en inspirer. Et, par exemple, quand je me suis voilée, j'ai entendu dire qu'il fallait quand même que je prenne mon temps, j'ai entendu dire que c'était pas primordial, j'ai entendu dire que j'aurais bien voulu que tu me demandes conseil avant, même de femmes qui ne portent pas le voile forcément, mais vu que j'étais convertie, elles auraient peut-être voulu en discuter. Puis c'est fréquent, je pense, que ce sujet, c'est d'ailleurs un peu, ça s'explique, mais c'est quand même malheureux et assez peu logique que ce sujet attise autant les passions et nécessite tant de réflexion, alors que, comme si, enfin, il est dramatisé, quoi. On dramatise tellement le port du voile qu'il faudrait faire des dissertations et des dissertations et des dissertations et se justifier et vraiment se sentir, je sais pas, quel niveau de foi pour oser le porter, alors qu'en fait, c'est comme. Ça y est, on te dit de le porter, porte-le. Et après, en fait, dans ce qu'ont fait les femmes du prophète, radiallah anha, c'est pas pardon. Bon, vous savez que je suis convertie, mon arabe n'est pas du tout très bon, n'est pas du tout bon, mais bon, je fais de mon mieux. Mais elles n'ont pas attendu, elles n'ont pas cherché à comprendre en premier lieu, elles n'ont pas débattu. Bon, Allah leur dit de faire quelque chose, elles le font et puis voilà quoi, c'est forcément bon pour elles. Et bien sûr, je n'émets aucun jugement vraiment pour mes sœurs qui ne sont pas voilées, et c'est vraiment pas une condamnation de ma part, loin de là. D'ailleurs, moi je ne fais que retranscrire pour l'instant. Enfin, je ne fais que retranscrire en fait factuellement les faits. Et je ne donne. Enfin, là, je vous ai donné un peu des exemples personnels, mais il n'y a pas de jugement derrière. Et ça ne veut pas dire que moi, je fais les choses parfaitement et que j'ai pas aussi mes contradictions par rapport à ces questions-là. Mais voilà, c'est à chacune d'évaluer. Où elle en est, et l'apport que la connaissance de ces hadiths peut leur apporter, on va dire. Donc, voilà pour ce verset-là. Alors, c'est ce verset qui a donné lieu à pas mal de. Dans le tafsir, par exemple, d'Ibn Kathir, ce verset, en fait, il est long et il est détaillé et il nous permet d'avoir beaucoup de détails sur ce qui peut être vu, ce qui peut être caché. Donc, je ne veux pas rentrer dans toutes les divergences en la matière. Ce que je pense, c'est que Allah a quand même laissé une certaine marge d'adaptation aux cultures, aux époques, etc., en ne disant pas exactement ce qui doit être couvert, mais c'est sûr que ce qui ressort, c'est la pudeur, l'importance de la pudeur et le fait de cacher sa poitrine. Et voilà, donc dans la notion de atour, qu'est-ce que c'est? Donc je vais vous parler du coup des conditions du voile, mais un peu plus tard. Je vais revenir sur ça. Avant d'en arriver là, je voudrais vous parler du voile dans le cadre du couvrement total. Donc Aïcha rappelle que lors de la prière de l'Fajr, certaines musulmanes étaient présentes, enveloppées de leur voile. Ici, le mot, c'est murut, et qu'elles retournaient ensuite à leur demeure sans que l'on ait pu les reconnaître. Comme pour les hommes, cela signifie que comme pour les hommes, on l'a vu précédemment, les femmes peuvent prier dans un drap complètement enveloppé. Mais cela signifie aussi que ce n'est pas obligatoire, parce que c'est dit que lors de la prière de Fajr, certaines musulmanes étaient présentes enveloppées d'un voile. Voilà, c'est une description, mais ça ne veut en aucun cas dire que c'était quelque chose d'obligatoire. C'était quelque chose qui se faisait. Pour vous citer un autre hadith, Aïcha, elle rapporte que son mariage a été annoncé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, par un signe venu d'Allah dans un songe où il l'a vu. Il a vu donc Aïcha, radiallahu anha, conduite par un ange sous une étoffe de soie. On lui dit alors: celle-ci est ta femme, dévoile-la. Mais donc ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu donc Aïcha couverte d'un voile dans un rêve. Ça a annoncé son mariage et il a entendu: celle-ci est ta femme, dévoile-la, dévoile-la. Mais attention, pour autant, ça ne signifie pas qu'ils ont été mariés dans le rêve, qu'ils auraient été mariés comme par Allah dans le rêve dès lors qu'il a fait ce rêve-là. Car Aïcha, sa mère, elle a bel et bien été demandée à son père, Abu Bakr, par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et comme je vous ai parlé de Zaynab, radiallahu anha, juste avant, je veux vous préciser que le seul mariage du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a été conclu par Allah le Très-Haut dans le ciel, est celui de Zaynab. Et à propos duquel, voici un hadith rapporté par Hanas. Alors, un jour, Zaynab exprima sa fierté devant les autres épouses du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en disant, ce sont vos parents qui vous ont marié avec le prophète. Quant à moi, c'est Allah le Très-Haut qui, au-dessus des sept cieux, m'a marié avec lui. Et cela de part le verset que je vous ai cité tout à l'heure, où Allah enjoint le prophète d'aller épouser Zaynab, quand bien même il craint les gens et ce qu'ils en diront. Donc voilà, et maintenant pour terminer, je vais vous donner les rapidement, parce que j'ai pas trop envie de devoir dire qu'est-ce qui doit être couvert, qu'est-ce qui ne doit pas être couvert. D'ailleurs, c'est pas moi qui vais le dire, vous imaginez bien. Je vais juste vous citer les quelques divergences et quelques mentions qui sont citées donc sur les conditions du voile. On va voir que dans l'exégèse d'Ibn Kathir, elles ne doivent pas montrer, donc par rapport au passage où il est dit elles ne doivent pas montrer leur atour, mais peuvent laisser voir ce qui ne peut être caché, il y a des divergences. Donc atour, déjà, c'est un atour, c'est une parure, c'est la toilette, ça peut être le vêtement même. Mais elles ont le droit de laisser voir ce qui ne peut être caché. Donc ça, ce qui ne peut être caché, ça a fait beaucoup couler d'encre. Pour Ibn Masoud, le voile par-dessus le vêtement, c'est la parure. Donc pour Ibn Masoud, ce qui ne peut être caché, c'est le voile qui est par-dessus le vêtement, d'accord ? C'est la parure, c'est ce dans quoi on s'enveloppe. Et c'est également le vêtement qui est par-dessus le sous-vêtement, d'accord ? Ça, c'est ce qui ne peut être caché. Pour Ibn Abbas, ce qui ne peut être caché, c'est le visage et les mains. Et ça, c'est l'avis majoritaire des érudits. Alors, Bon, c'est beaucoup de détails, mais je trouve, ouais, c'est un peu compliqué, mais je trouve ça quand même bon d'ajouter que pour Ibn Masoud, les atours, les parures, ça peut être les boucles d'oreilles, les colliers, les anneaux de pied, les bracelets. C'est pour ça aussi qu'à la fin du Haya, on dit ne tapez pas des pieds, là, ne piaffez pas pour qu'on vous remarque et qu'on sache, qu'on devine encore quel est votre. Qu'est-ce que vous cachez? L'idée, c'est d'être pudique, d'être discrète, on va dire. Donc, Ibn Masoud a distingué deux sortes d'atours, ce qui peut être vu et ce qui ne peut pas être vu. Par exemple, ce qui peut être vu, c'est les vêtements extérieurs, et ce qui ne peut pas être vu, ou qui ne peut être vu que de par le mari, c'est les bijoux, hormis peut-être les bagues. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup d'écrits à ces sujets-là. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est dans la notion de rabattre. Rabattre, c'est couvrir le cou et la poitrine et ainsi se distinguer des femmes païennes qui ne cachaient ni leur cou, ni leur poitrine, ni leurs tresses, ni leurs boucles d'oreilles. Ensuite, donc, concernant les personnes autorisées à voir la femme dévoilée, bon, il y a beaucoup encore à dire. Je pense notamment, et je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là, mais par exemple, lorsque, d'après cette aya, lorsque une femme adopte un enfant, homme, il n'est pas en droit de la voir dévoilée une fois passé l'âge de la puberté. De la même manière que un père qui adopte une fille, lorsque cette fille aura atteint l'âge de la puberté, d'après ce Aya, elle devra se voiler devant son père adoptif. Alors ça, c'est un sujet qui peut être perturbant, mais qui en fait est sage aussi, il suffit de creuser et c'est pas ce qu'on va faire maintenant. Et par rapport, et puis il y a peut-être aussi, je ne suis pas non plus experte en la matière, mais il y a peut-être aussi des divergences, mais en tout cas de l'avis majoritaire des savants, oui, la fille, il faut savoir que quand on décide d'adopter un enfant, cet enfant-là n'est pas un étranger, cet enfant-là devra être aimé, avoir tout l'amour, tout ce dont il a besoin. Il pourra même être plus aimé, il pourrait y avoir plus d'affection pour lui que l'enfant de sang. Mais ça ne va pas à l'encontre du fait que quand il aura atteint l'âge de la puberté, la mère devra se voiler devant et on sait qu'on ne donne pas le nom de famille du père adoptant. Et on peut aussi voir dans cela une façon de préserver aussi la vérité et de respecter aussi les parents biologiques et d'éviter les secrets douloureux. Et ce qu'il faut aussi en tirer, c'est que, encore une fois, il faut dédramatiser le voile et quand on explique les choses, il n'y a pas de raison si un enfant a reçu tout l'amour dont il a besoin et a grandi de façon pieuse, etc. Que ce soit une fille qui décide de se voiler plus tard devant son père adoptif ou une mère qui doit porter le voile devant son fils adoptif. Si c'est expliqué sans tabou, dans l'amour, par tous les membres de la famille, ça ne doit jamais devenir un obstacle, car l'islam est une facilité. Et ce que je voulais plutôt développer un petit peu avec vous, c'est que quant aux personnes autorisées à voir la femme dévoilée, il y a une divergence entre les savants au sujet des femmes non musulmanes. Car dans l'Aya, il est dit. Aux fils de leurs frères ou aux fils de leurs sœurs ou aux femmes musulmanes. Ah oui, juste du coup, je voudrais vous dire que aussi l'islam encourage, lorsqu'on adopte un enfant en bas âge, bébé, si elle l'allaite, par contre, si la maman l'allaite, oui, là, elle pourra se dévoiler devant. ou si la sœur du papa adoptif allait l'enfant, il pourra voir si la fille est allaitée par sa tante paternelle, elle pourra se dévoiler devant son père adoptif. C'est aussi une façon, subhanallah, d'inciter l'allaitement lorsqu'il est possible. Et même si la maman, elle ne peut pas, elle adopte un enfant, elle n'a pas de lait, elle ne peut pas, si elle a une de ses sœurs qui peut allaiter l'enfant, elle pourra, la maman, se dévoiler devant cet enfant plus tard. Donc c'est aussi une façon de renforcer les liens affectifs, parce que donner le sein, c'est vraiment intégrer dans la famille complètement l'enfant. Et du coup, la suite de l'aya dit, aux fils de leur sœur ou aux femmes musulmanes. Donc ça impliquerait qu'on ne peut pas se voiler devant les femmes qui ne sont pas musulmanes. Mais là aussi, il y a divergence entre les différents savants. Ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que ce soit une femme musulmane ou une femme non musulmane, on ne doit pas se dévoiler devant une femme pour laquelle on craint qu'après, elle aille décrire à son mari la beauté, votre beauté, en fait, au point qu'on pourrait penser que ce mari vous est vu. D'accord ? Ça, en fait, c'est ça que les érudits ont dit au final. On peut se voiler on peut se dévoiler, en fait, devant une femme non musulmane si on fait confiance au fait qu'elle ne va pas aller vous décrire dans les détails auprès de son époux ou d'un homme en général. D'accord ? C'est un hadith qui nous le dit, parce que le messager d'Allah a dit « La femme ne doit pas fréquenter une autre femme pour la dépeindre ensuite à son mari, au point qu'il serait comme s'il l'avait vue. » D'accord ? Donc il faut être raisonnable quand on rapporte ceci. Parce que, voilà, si on applique tout le temps les textes à la lettre, on passe des fois à côté de l'essentiel. Il faut savoir, par exemple, qu'il est rapporté par Abu Hatim que lorsque les Sahaba s'installèrent à Jérusalem, leur épouse était assistée lors des accouchements par des sages-femmes qui étaient juives et chrétiennes. Ce qui prouve que, voilà, elle ne se voilait pas devant, surtout quand il y a une raison... tel un accouchement, etc. Donc voilà, l'avis le plus répandu, c'est ce que je vous ai dit, c'est qu'on peut paraître non voilé devant une femme non musulmane, si cette crainte d'être que notre beauté soit dévoilée à un homme est élevée. Donc ça aussi, c'est quelque chose dont on doit faire attention. Par exemple, quand on partage des photos de nous avec sans notre voile à des amis, qui nous voit dévoiler, quand il s'agit d'une photo, ça peut facilement après être révélé. Mais bon, là, c'est à chacune de voir comment elle se situe par rapport à ça. Il ne faut pas se charger non plus trop et réfléchir trop. L'essentiel, c'est de commencer par se voiler. Puis après, on évolue et on voit comment on peut gérer tout ça. Alors, pour conclure... Je vais vous dire que, en fait, le voile est une façon pour la femme de s'émanciper de l'attraction physique qu'elle peut avoir, de s'émanciper de l'apparence pour être vue pour ce qu'elle est intérieurement. Et ça, c'est du point de vue extérieur, mais du point de vue intérieur, c'est aussi une façon de se rapprocher d'Allah et de ce qu'il nous demande de faire, de renforcer notre taqwa. Il faut également qu'on garde en tête qu'il y a un contexte culturel et qu'il est bon de se souvenir du pourquoi, afin de renforcer notre taqwa, notre cohérence, et qu'il ne faut pas agir aveuglément, mais qu'il est bon d'agir en connaissance de cause. Donc pour finir, je vais vous citer... Il y a beaucoup de passages du Coran qui rappellent cela, mais je vais vous en citer un en particulier. C'est la sourate 13, sourate Ar-Ra'd, sourate Ar-Ra'd, donc verset 19 à verset 24. Alors, celui qui reconnaît dans la descente opérée sur toi, de par Allah le vrai, serait-il l'égal de l'aveugle ? Que là-dessus médite ce doté de moelle. D'autres traductions disent que là-dessus médite ce doté d'intelligence. Donc on pourrait même dire que là-dessus médite ce doté de matière grise. Ceux qui s'acquittent de leur engagement envers Allah et ne violent pas le pacte. Ceux qui unissent ce qu'Allah a commandé d'unir, redoutent leur Seigneur et craignent une malheureuse reddition de compte. Ceux qui endurent dans la recherche de la face de leur Seigneur, accomplissent la salat, font dépense sur notre attribution, en secret comme en public, repoussent par l'œuvre belle la mauvaise. À cela revient l'ultime demeure, les jardins d'Éden. Ils y entrent avec les justifiés parmi leurs ascendants, leurs conjoints, leur progéniture. De chaque porte, les anges entreront en leur honneur. Paix sur vous pour votre endurance. Félicité dans l'ultime demeure. Alors, en espérant vous avoir été profitable, en m'excusant pour les éventuelles erreurs ou lourdesses dans le discours, et en espérant vous avoir fait partager un peu de mes recherches, je vous souhaite une belle journée et je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À bientôt.